Tipeee. Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour et bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines bien sûr. Aujourd'hui, dernière émission en direct du Club France pour Paris 2024. Alors nous allons quitter le sport de très haut niveau pour redescendre sur terre. Si vous avez, vous, envie de vous remettre au sport, de découvrir aussi d'autres sports mais en mode loisir, pour le plaisir, avec peut-être quelques défis performance tout de même, comment choisir le sport qui vous convient le mieux? Foot, rugby, judo, course à pied, musculation, paddle, breakdance, escalade, le choix est devenu tellement large, enfin du moins en théorie si vous avez les infrastructures près de chez vous. Individuel ou collectif, en plein air ou en salle, comment bien définir vos objectifs, vos envies pour vous réaliser par le sport et surtout mieux vous connaître vous-même. Je vais vous présenter nos invités pour discuter de tout cela, des experts. Alexia Cornu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coach sportif, vous êtes experte en physiologie féminine, vous avez coaché notamment en athlétisme et puis vous avez beaucoup de succès aussi avec vos vidéos sur Instagram qui s'adressent aux femmes, mais pas seulement. Avec nous également un sport de combat, art martial et un sport collectif. Benjamin Luron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller technique national en charge du développement du Hapkido et de la formation des entraîneurs au sein de la Fédération française de Taekwondo. L'Hapkido, c'est une variante du Taekwondo?
C'est en tout cas un art martial coréen à l'image du Taekwondo.
Vous êtes ici au Club France pour promouvoir ces sports, pour assister aux quarts de finale, aux demi-finales et aux finales cet après-midi, ce soir, hommes, femmes?
Oui.
Beaucoup d'émotions en perspective. La France a déjà une médaille de bronze.
Déjà une médaille de bronze et puis on va essayer d'aller chercher l'or.
Ouais. Bon, c'est déjà pas mal. Arnaud Prigent également, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct au Club France. Vous êtes vice-président de la Ligue Île-de-France au sein de la Fédération française de volley, entraîneur au club de Pantin. Et vous attendez avec impatience la finale homme demain. France-Pologne.
Pour garder notre médaille d'or.
Exactement. On croise les doigts, une autre médaille d'or que celle des JO de Tokyo, en 2020. En deuxième partie d'émission, les JO des auditeurs avec Delphine Cachin. Bonjour Delphine.
Bonjour Emmanuel.
Et puis la chronique Le futur du sport de Tom Malky. Bonjour Tom.
Bonjour Emmanuel.
Quel sport dominera le monde demain?
Tout ce que je peux vous promettre, c'est qu'on ne va pas que parler du football.
Et enfin, mon premier stade. Moi, j'y crois qu'à moitié. Hein. Enfin, je suis sûre que vous allez beaucoup nous parler de foot. Et enfin, mon premier stade, le sport expliqué aux enfants, la fin des Jeux approche. Donc, il sera question de basket avant la grande finale de demain. Et puis, nous ferons sûrement aussi un détour en direct du côté de l'athlétisme avec Cédric De Oliveira au Stade de France.
8 milliards de voisins. On est ensemble.
Good morning, bonjour.
Salut les voisins.
Salam alaikum.
Mecha su violo.
Buenos dias.
A quoi va les voisins et les voisines?
Alexia Cornu, Benjamin Luron, Arnaud Prigent. Vous avez tous les trois une histoire très multicarte avec le sport, hein, je crois, Alexia Cornu.
Oui, effectivement. J'ai commencé à l'âge de 6 ans avec de l'équitation, 8 ans l'athlétisme, ensuite des études universitaires en sciences du sport et aujourd'hui du sport loisir, du sport santé que j'anime aussi.
Ouais. Mais comment vous avez su à un moment donné que l'athlétisme, c'était quand même un sport de prédilection pour vous? Comment vous vous êtes mieux connue aussi à travers le sport?
Alors, grâce au côté multisport de l'athlétisme, en fait, on saute, on lance, on court. Et c'est très ludique, surtout au niveau de l'école d'athlétisme chez les plus jeunes. Donc, c'est ça que j'aimais, la variété. En fait, je suis quelqu'un qui me lasse très, très vite. Et donc, de pouvoir essayer plein de sports différents m'a permis de ne pas me lasser, de rester longtemps dans ce sport.
Un peu à l'image de votre génération, finalement.
Sûrement,
génération Zappi. Alors, sauf qu'en même temps, le sport, il faut aussi pas se décourager, il faut persévérer. Arnaud Prigent, vous aussi, vous avez testé beaucoup de disciplines avant de découvrir le volley à 15 ans.
Oui, pourtant je suis pas de la génération zapping, mais
là on est multigénération.
Voilà, mais oui, j'ai fait à peu près tous les sports jusqu'à 15 ans. Et j'ai fait longtemps du basket, et puis à 15 ans en fait j'ai découvert le volley parce que mes parents jouaient sur la plage. Mmh. Et finalement c'est le sport qui m'a le plus convenu par rapport à mon état d'esprit personnel.
Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs ou auditrices qui ne connaissent pas forcément bien le volley? Quelle est la spécificité du volley par rapport à d'autres sports collectifs à part le filet en hauteur?
Alors le sport collectif, le volley par excellence, c'est le seul sport collectif où on ne peut pas jouer tout seul. Voilà, au football, au hand, ou au basket, si vous êtes très fort, vous prenez la balle dans votre camp, puis vous dribblez tout le monde et vous marquez.
Oui, on en voit des gamins voilà. qui font ça dans le quartier quand ils sont tout seuls et qu'ils s'embêtent.
Hein. Éventuellement, vous pouvez faire quelques services tout seul, mais après, voilà. Et donc, vous êtes complètement dépendant de votre partenaire et c'est le seul sport collectif où il n'y a pas de contact avec l'adversaire. Voilà, puisqu'il y a un filet nous sépare, comme au tennis.
Et on court beaucoup moins qu'au foot.
On court beaucoup moins qu'au foot, oui. C'est, mais ce n'est pas un sport de feignant pour autant, attention.
Ouais, on va y revenir, bien sûr. Benjamin Luron, quel est l'esprit du Hapkido, art martial coréen, qui est une... Alors, si je dis sous-catégorie du Taekwondo, vous n'allez pas être très content.
Non, effectivement, c'est un art martial différent du Taekwondo, mais qui porte de la culture coréenne des activités communes, notamment la partie des coups de pied qui est très présente dans les arts martiaux coréens et avec une valence plus de self-défense sur des immobilisations et des projections.
Ouais, c'est fait pour quelle personnalité ?
C'est fait pour toutes les personnes qui sont désireuses soit d'apprendre à se défendre, soit d'apprendre un art martial complet. Et de développer une certaine polyvalence dans l'utilisation de son corps dans les arts martiaux.
Vous avez 44% de femmes dans vos clubs.
Au niveau de la fédération, effectivement, 44%. On a le taekwondo et l'hapkido portent une vraie politique en matière de femmes, notamment chez les jeunes filles des quartiers populaires, mais pas que.
Et pourquoi ? Elles ont envie d'être capables de se défendre ? Il y a vraiment une vision très utilitaire, en fait, de cette pratique sportive ?
Il y a effectivement cette valence très utilitaire de cette pratique sportive, et également, puisque le taekwondo nécessite pas mal de qualités de souplesse, d'agilité, et c'est des qualités qui sont très présentes aussi chez les femmes, et je pense que ça fait partie des choses qui les intéressent. Pour venir au taekwondo.
C'est un système de ceinture comme au judo ?
Effectivement, c'est un système de ceinture jusqu'à la ceinture noire, puis avec l'augmentation des danes.
Ouais. Qu'est-ce que l'on puise au fond de soi quand on pratique vos sports respectifs, l'hapkido déjà ?
En tout cas, ça développe la résilience, beaucoup la résilience, l'abnégation, la remise en question, et puis ça porte, à l'instar des autres arts martiaux, beaucoup de valeurs de respect, de discipline. Qui sont très présents dans les arts martiaux.
Et pour le volley ?
Alors déjà, pour le volley, on est aussi un sport très équilibré puisqu'on est quasiment à 50-50 en termes de licenciés hommes-femmes. Voilà, je crois bien que c'est le sport co qui est le plus en avance. Ouais.
Et sur le beach volley, par exemple, il y a plus de femmes ?
Je n'ai pas les stats, mais c'est à peu près pareil. Hein. Je n'ai pas les stats spécifiques du beach, mais oui, dans l'ensemble, c'est à peu près pareil. Voilà, donc ça, c'est quand même une grosse particularité. Et on a un taux de fidélisation chez les plus jeunes, ça dépend des années. Des fois, c'est plus les garçons, des fois, c'est plus les filles. Mais à l'école, c'est vraiment un sport très, très mixte.
Quelle qualité physique ça développe, peut-être pour l'athlétisme, Alexia Cornu ?
Bah, toutes. Et il y a la coordination qui est très présente. Et également, tout ce qui va être endurance, cardio, renforcement. C'est des sports qui utilisent vraiment toutes les parties du corps. Donc du coup, on développe vraiment autant le physique, mais aussi beaucoup le mental, que ce soit dans les sports courts, dans les sports individuels. Et je pense que c'est ça aussi ce qu'a apporté le sport dans nos vies.
Ouais. Et vous disiez sur l'hapkido, Benjamin Luron, il y a le coup de pied. On utilise beaucoup les jambes, on travaille beaucoup les jambes.
Il y a un vrai travail des jambes, effectivement, de par la culture coréenne et des arts martiaux plus anciens de Corée, une grande utilisation des jambes, mais également après toute une partie d'utilisation des poings et du reste du corps, notamment en hapkido avec les techniques, avec les projections, les clés articulaires.
Les projections, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on essaye d'enlever l'équilibre à son adversaire pour le faire tomber au sol, puis pour l'immobiliser.
Vous restez bien sûr avec nous, hein. On va parler des objectifs, comment choisir le bon sport en fonction de sa personnalité, mais tout de suite nous retournons dans quelques secondes au Stade de France.
RFI, en direct sur tous les terrains des Jeux.
L'athlétisme au Stade de France avec Cédric De Oliveira, le 100 mètres EF féminin, demi-finale, où en êtes-vous, nous, Cédric ?
Eh bien... Oui, bonjour, bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde. Eh bien, on en est à la troisième demi-finale du 100 mètres et il y en a trois des demi-finales pour aller se qualifier pour la grande finale qui aura lieu demain. Ça va aller très très vite, dit on le rappelle, pour chaque athlète avant de franchir l'arrivée. Et donc, on va déjà vous dire que c'est très très chaud pour Toby Amusan, la Nigériane, la record woman du monde de la distance, n'a pris que la troisième place de sa demi-finale derrière l'américaine Grace Stark et la bahaméenne Devin Charlton. Il faut le dire, discipline très très dense, vraiment tout le monde, en tout cas beaucoup beaucoup d'athlètes peuvent gagner. Et la Nigériane qui est pourtant championne du monde en 2022, eh bien elle ne pourrait pas avoir la finale. Son chrono c'était 12,55, elle l'espère, pourquoi pas obtenir eh bien une des places qu'il reste si elle ne parvient pas eh bien à avoir une meilleure marque que les autres. Dans la deuxième demi-finale, très belle impression aussi pour l'américaine Aleisha Johnson, vainqueur en 12-34 devant la néerlandaise Nadine Visser. Il va donc falloir eh bien que les athlètes présentes là pour cette troisième demi-finale fassent mieux. Il y a du beau monde dans cette série, notamment la portoricaine Jasmine Camacho-Quinn, elle est championne olympique en titre, une esthète, elle a impressionné en série. C'était très très fluide, un petit peu à l'image de Grant Holloway hier, champion olympique l'américain. Il y aura aussi la sud-africaine Marianne Foury, couloir 9, et puis un petit cocorico pour les Français. Sirena Samba-Mayela, couloir 6, qui a couru en 12-31 cette année. Et bien, c'est Emmanuel, c'est une des dernières chances de médaille pour l'athlétisme français, puisque vous le savez, pour l'instant, zéro médaille pour les tricolores ici au Stade de France. Voilà, c'était un petit peu mieux dans d'autres disciplines, mais pour l'instant, l'athlétisme, zéro pointé. Et donc, il faut terminer parmi les deuxièmes de la course, où je vous le disais. Sinon, ce sera les deux meilleurs chronos qui ne font pas partie des deux premières. Donc, la néerlandaise Maike Tin Alim, couloir 2. La japonaise Mako Fukube, couloir 3. La jamaïcaine Akera Nujen, couloir 4. Jasmine Camacho-Quinn, donc, je vous le dis, la petite favorite portoricaine au couloir 5. Sirena Samba-Mayela au 6. Masai Rossell, couloir 7. Cindy Samber, la britannique, au couloir 8. Et Marianne Foury au 9, la concentration des athlètes, ça va aller très très vite. Je vous dis 12 secondes, je ne vous prends pas plus, Emmanuel.
Non, effectivement, dans les starting blocks, ça va démarrer.
Voilà, dans les starting blocks, c'est parti pour cette troisième demi-finale. C'est bien parti pour Sirena Samba-Mayela qui est au coude à coude avec Jasmine Camacho-Quinn, mais elle va l'emporter, la portoricaine Jasmine Camacho-Quinn. C'est elle, la portoricaine vainqueur devant Sirena Samba-Mayela. Je vais vous donner les chronos, mais les deux athlètes à aller en finale donc demain, ce sera donc la portoricaine et la française. En tout cas, c'est sûr, Jasmine Camacho-Quinn en tête, 12-35, et on va attendre un petit peu. Non, c'est l'américaine Masai Rossell qui a pris la deuxième place, et il va falloir guetter les chronos pour voir eh bien si Samba-Mayela, 12-52, ça va être un petit peu compliqué pour elle. En tout cas, Toby Amoussan, elle ne sera pas en finale. Voilà.
Merci Cédric de Oliveira en direct du Stade de France pour ces demi-finales 100 mètres et féminin. Nous allons retrouver nos invités chez 8 milliards de voisins dans quelques instants, juste après ce duo tanzanien Dadi Poslim et Zuchu, que vous retrouvez d'ailleurs en playlist RFI. milliards de voisins. Nous sommes en direct sur RFI, en direct du Club France. Et aujourd'hui, dernière émission de cette série Paris 2024. On continue de parler de sport, mais de sport pour tous et pour toutes. Comment bien choisir son sport en fonction de ses aptitudes, en fonction de sa personnalité, en fonction des infrastructures, en fonction des coachs aussi qui sont disponibles, présents, pas trop loin de chez vous. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler au 33 7 64 45 51 41. On parle avec Alexia Cornu d'athlétisme, mais pas seulement, parce que Alexia, vous êtes coach sportif, un peu toute discipline, et vous postez des vidéos très bien faites sur Instagram. Benjamin Luron pour l'apkido et le taekwondo, qui est au Club France et qui anime aujourd'hui, qui va donner envie de faire cet art martial. Arnaud Prigent pour le volley. Vous aussi, vous êtes au Club France avec une série d'animations pour faire découvrir le volley, des sports très paritaires d'ailleurs, on le disait, pour l'art martial ou pour le volley. Et tout de suite, écoutez le témoignage d'Éric Allomé, un auditeur qui s'est mis au roller.
Personnellement, j'ai réussi à choisir mon sport en ayant essayé plusieurs, parmi lesquels j'ai vu que je me sentais bien dans le roller. Et c'est ce que j'ai fait. Et bon, au début, ce n'était pas facile, mais avec le temps, on a fini par s'habituer. Et puis, ce n'est plus du tout un problème pour moi. Alors que j'ai eu à essayer le basket, où malgré plusieurs séances que j'ai eu à assister, je n'arrivais toujours pas à faire des petits trucs, des petites choses pour commencer, tout ça, là, je n'arrivais pas. Et donc, j'ai vu que ce n'était pas mon truc. Ce sport n'était pas mon genre de sport. Donc, j'ai laissé tomber et je ne fais que le rouleur. Je me sens très bien là-bas. Peu importe si c'est en équipe ou moi seul, ça ne me dérange pas.
Ouais, alors, j'arrivais pas à faire des petits trucs en basket. Qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement? À mettre le ballon dans le panier. À quel moment il faut jeter l'éponge, Alexia Cornu? On commence le basket et puis on n'arrive jamais à mettre le ballon dans le panier. À quel moment on se décourage? À quel moment on se dit c'est pas fait pour moi? D'ailleurs, il y a la question de la physiologie, mais pas seulement.
Oui, je pense que déjà, avant de se décourager, si on a été vers ce sport, c'est qu'il y avait quand même une attirance à la base. Eh bien, déjà, d'essayer de se faire aider, accompagner, prendre des coachs ou alors des amis qui ont un niveau un petit peu plus avancé pour leur demander des conseils. Et déjà, essayer de voir s'il n'y a pas, avec des bons conseils, une façon de progresser déjà dans un premier temps. Pas se décourager dès le début. Après, c'est vrai que si on persévère et que ça ne passe pas, peut-être aller voir justement sur un autre sport. Il y en a tellement.
Les coachs ont une image parfois un peu différente de l'image qu'on a de soi-même, non? Est-ce que vous avez cette impression-là, vous aussi, les coachs sportifs, volley, taekwondo?
Je pense que c'est propre à chacun, Arnaud de Prigent. Toute façon. Voilà, mais effectivement, le coach a aussi un rôle très important dans l'attirance pour le sport, puisqu'on est dans la notion de plaisir avant tout. Avant de penser à la compétition et au haut niveau, on est avant tout dans la notion de plaisir et de santé aussi.
Il y a des disciplines où le coach est plus important que dans d'autres disciplines, Alexia Cornu?
Je pense qu'il est important dans toutes les disciplines. Après, c'est vrai que la relation n'est pas la même. Un coach d'un sport qui va être collectif ne va pas avoir la même relation avec ses athlètes qu'un sport individuel.
Ouais, parce que ce qui compte, c'est la super ambiance dans l'équipe de volley. Pour vous, Arnaud Prigent, qui est entraîneur au club de Pantin.
Je pense qu'effectivement, déjà, il y a une différence entre le sport co et le sport individuel, parce que c'est quand même un état d'esprit totalement différent. Le sport individuel, vous êtes face à vous-même. Le sport co, vous êtes dans un groupe.
C'est ça. Et vous n'êtes pas, en tant qu'entraîneur, vous n'êtes pas face à chaque joueur, pas réellement.
Non.
Vous êtes face à l'équipe.
Alors, au volley, on a quand même une différence, parce qu'entre le volley et le beach volley, c'est presque du sport individuel, puisqu'ils ont leur propre coach et c'est des pairs. Donc, ils vivent plus comme des tennisman. Alors qu'au volley, on est quand même des équipes de 12. Donc, c'est pas du tout le même rapport.
Et pour vous, Benjamin Luron, pour l'apkido et le taekwondo?
C'est des sports individuels, effectivement, qui se pratiquent de toute façon en groupe. Donc, les coachs sont quand même là pour l'ensemble de leurs athlètes,
ouais,
de leurs élèves.
C'est des groupes de couple, en fait.
Voilà. Mais effectivement, la relation, elle peut être particulière quand on va sur de la compétition et elle est beaucoup plus générale après dessus, mais ils sont importants pour la dynamique, pour la mise en confiance et la relation qu'on peut avoir avec son coach.
Je vous posais aussi la question sur les coachs parce que, bon, il y a évidemment l'assiduité, la régularité pour progresser. On va parler aussi de la façon de progresser quand on démarre un sport ou qu'on se remet à un sport. Les coachs nous donnent souvent mauvaise conscience. Ils vous disent la natation, c'est 3 fois par semaine, sinon tu progresseras jamais. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres? Vous qui venez du sport quand même aussi un peu de haut niveau.
Je pense qu'il y a une grosse différence entre les coachs du sport loisir et sport santé et les coachs compétition. Effectivement, le coach compétition va être là pour la performance. Et une recherche de performance nécessite un engagement de l'athlète et une régularité. Le sport santé, on est sur une notion de plaisir. Alors oui, il faut être régulier pour être en bonne santé. Mais du coup, il n'y a pas ce côté culpabilisant qui va être liée au fait de garder un rythme absolument.
Mmh. Ouais, en même temps, chaque pratiquant a envie de progresser. Donc, parfois, on vous demande un peu des choses paradoxales ou pas, Benjamin Luroy, Arnaud Prigent ?
Ça peut arriver parfois de vouloir...
Je viens jamais, mais je progresse pas comme ça se fait.
Exactement. Donc, la régularité est importante, mais sous couvert de garder le plaisir, puisque c'est le plaisir qui va aussi pouvoir garder l'athlète ou la personne qui vient au sport dans le temps. Et donc, c'est assez important.
Et c'est exactement pareil. Les joueurs ne comprennent pas, par exemple, qu'ils ne jouent pas en match parce qu'ils ne viennent pas s'entraîner. Donc, ils ne progressent pas. Voilà. Donc, mais effectivement, il ne faut pas être dans une situation d'échec. On est toujours dans la réussite. Alors, le volley, c'est en plus très particulier puisque c'est un sport très technique. Donc, on est tout de suite dans l'échec et il faut qu'on arrive à mener les enfants à la réussite. Donc après, voilà, s'il rate un entraînement, ce n'est pas très grave. Mais oui, même au sport loisir, si vous êtes assidu, vous progressez forcément beaucoup plus.
Donc, voilà. Dans le choix du sport, on n'a pas encore vraiment évoqué la question de la morphologie du corps. On a parlé des personnalités, qui sont des personnalités différentes en fonction des sports. Mais dans ces sports loisirs, quel est le poids des dispositions de la morphologie, Alexia Cornu ?
Je pense que quand on est sur du sport loisir et qu'on n'est pas dans une recherche de performance, il ne faut pas s'arrêter à une morphologie. Il ne faut pas se dire « je suis petite, je ne fais pas de basket » ou « je ne fais pas de volley ». Et vraiment, plus d'aller vers les sports qui nous font ressentir des émotions, du plaisir et de l'envie. Et donc, on va forcément progresser en y allant. Et donc, pas s'arrêter vraiment à un physique.
Mais en même temps, il faut peut-être aussi être conscient que le sport de haut niveau, c'est un haut niveau d'émotion et que le sport loisir, on ne va jamais retrouver ce niveau-là d'émotion.
On ne va pas connecter autant. Quand on voit nos athlètes, les émotions qui nous font vivre, c'est parce que derrière, il y a tellement d'années de travail, de souffrance aussi, d'échecs, qui fait que quand on voit les médailles, forcément, nous, on vibre avec eux. Maintenant, c'est sûr qu'il n'y a pas autant de souffrance dans le sport loisir, donc il n'y a pas forcément les mêmes émotions derrière quand on est en réussite. Mais il y a quand même toute la dimension de santé, de partage aussi avec les autres, que ce soit dans un sport individuel ou un sport co, on partage quoi qu'il arrive. Et ça, je pense que le côté communion, on l'a quand même.
Ouais. Les dispositions du corps, de la morphologie, ça compte chez vous aussi en volley ?
Ça va bien avec le débat que vous allez avoir après, puisque effectivement, on dit souvent « je ne suis pas grand, je ne peux pas jouer au volleyball », ce qui est complètement stupide, puisque en fait, oui, si vous ne faites pas 2 mètres, vous n'irez pas en équipe de France, ça c'est certain, mais quoique maintenant, il y a les libéraux qui sont petits, mais en fait, c'est ce qu'on dit, il y a des pratiques de loisirs, il y a des gens petits qui jouent au volleyball, alors c'est sûr que le filet est toujours là, mais...
Ils compensent avec quoi alors ?
Il compense juste avec le plaisir, des fois avec de la détente. Il y a des petits qui ont une excellente détente, qui sautent à plus de 1 mètre en détente sèche. Donc, il y a ça aussi. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'il faut...
Bon, les bras aussi, quand même.
Il y a les bras, il y a le ballon. Voilà, voilà. Et puis, le volley est très différent en fonction du poste auquel on joue. Si on est passeur, si on est libéraux, si on est central. Voilà. Donc,
ouais. Et pour l'apkido, le taekwondo ?
Je vais répéter, mais effectivement, pour la haute performance, la morphologie est très importante, mais de manière loisir, on peut très bien, avec n'importe quelle morphologie, pouvoir prendre du plaisir dans une discipline et pouvoir progresser dans la discipline jusqu'à son certain niveau.
Pour le haut niveau, la morphologie est très importante, c'est-à-dire si on voulait rêver de s'approcher de cette morphologie.
En l'occurrence, en taekwondo, pour le haut niveau, il vaut mieux être très grand et très longitudinaire pour pouvoir essayer d'aller chercher à toucher à la tête qui rapporte le plus de points. Donc, c'est un peu la morphologie qu'on retrouve aujourd'hui.
Pour ceux qui choisissent des disciplines, je pense à l'athlétisme, à la natation, mais pas que, mais où il y a des entraînements qui peuvent être monotones, qui peuvent être assez ennuyeux, il faut aligner les kilomètres, les longueurs, etc. Ou du vélo en salle aussi, si c'est très important de faire aussi parallèlement beaucoup de salles et de vélo en salle. Est-ce que c'est une bonne idée d'écouter des podcasts, d'écouter de la musique ? Quand on fait cette partie-là du travail qui n'est pas la partie la plus fun, en fait, Alexia.
Je pense que quand on est seul sur sa pratique, oui. Après, l'idéal pour moi, c'est de trouver un partenaire d'entraînement, même sur des sports individuels. Et comme ça, ça permet de pouvoir discuter, de pouvoir aussi se motiver, parce que l'avantage des sports co, c'est que quand on n'a pas envie d'y aller, si on n'y va pas, on pénalise l'équipe. Et donc, dans les sports individuels, c'est soit avec soi-même. Et donc, le premier conseil serait plutôt de trouver un partenaire d'entraînement. Et s'il n'y a pas de partenaire, de trouver les meilleurs partenaires musicaux, podcast pour vraiment prendre du plaisir pendant la pratique, voir le temps passer peut-être un peu plus vite quand on a des entraînements qui ne sont pas techniques, où c'est juste d'emmagasiner en fait, de l'endurance, des kilomètres.
Sauf qu'en pratique, vous conseillez quand même beaucoup de varier les exercices dans la course. On n'enchaîne pas 10 kilomètres comme ça linéaire quand on court.
Non, clairement, quand on veut progresser sur des activités, que ce soit de toute façon la natation, la course à pied, le vélo, ça de faire du fractionné en fait.
Donc, qu'est-ce que c'est exactement le fractionné ?
On va progresser plus vite en faisant des efforts qui vont être des accélérations, on ralentit, on accélère, on ralentit. Donc, plutôt que de faire tout le temps, en fait, à la même vitesse. Et c'est un petit peu moins ennuyeux aussi. Donc, d'avoir, en fait, des entraînements qui vont être variés. Par exemple, si on prend...
Avec un chrono en main, dans ces cas-là?
Pas forcément. Si je prends la course à pied, moi, ce que je recommande souvent, c'est d'y aller, bah, si on y va avec une musique, sur des musiques qui sont un peu plus rythmées, d'accélérer la foulée, sur des musiques un peu plus lentes, de ralentir la foulée et de se faire une playlist qui alterne. Mmh. Ou alors, ça peut être aussi de viser le prochain lampadaire, ou alors d'aller faire des parcours avec du dénivelé. Du coup, les côtes vont être plus difficiles, le plat ou les descentes plus faciles, ce qui va permettre de varier l'intensité de l'effort et de progresser plus rapidement.
Ça veut dire qu'on reste concentré sur ce qu'on fait, on n'est pas en train d'écouter par exemple 8 milliards de voisins si on veut vraiment progresser et faire sa course. Je dis ça, j'ai pas intérêt à le dire, mais bon.
Bah, du coup, ça veut dire qu'il va falloir que sur vos playlists, vous mettiez un coup des musiques lentes, un coup des musiques très dynamiques, comme ça, en écoutant.
Mais écouter des gens parler, c'est pas idéal, parce que là, on part complètement dans autre chose et on est plus concentré sur son corps, sur la relation entre la tête et le corps.
Pour faire du volume, c'est bien les podcasts, parce qu'il y a vraiment aussi cette notion de faire de l'endurance, donc d'être à basse intensité pendant très longtemps, et là, les podcasts vont être très adaptés pour faire ce qu'on appelle donc du volume. Et après, bah, la musique, les changements de rythme, les côtes vont être plus adaptés pour faire du fractionné et progresser.
Soyons précis, qu'est-ce que vous appelez faire du volume?
La quantité.
Oui, d'accord.
Faire du volume, c'est la quantité. Ouais.
Plus précisément.
Et ben, ça va être d'être à une intensité où on pourrait tenir une conversation, par exemple, avec quelqu'un. On pourrait discuter, où on peut écouter. Enfin, voilà, on est vraiment sur un rythme où, au niveau respiratoire, on est en aisance. Mmh. Et on peut tenir très longtemps. Donc, ça peut être, pour certaines personnes, ça va être de la marche rapide. Pour d'autres, ça va être de la course à pied. Mais vraiment, un niveau d'intensité où on peut... durer longtemps.
Ouais, pour progresser en marche rapide ou en course, idéalement, il faut courir combien de kilomètres par semaine?
Ça dépend d'où on part. C'est très variable, en fait. Il faut vraiment plutôt se dire d'où est-ce que je pars, quel est mon objectif, et ensuite, entre les deux, comment est-ce que, étape par étape, je me rapproche pour pas aller trop vite, parce que si on va trop vite, en fait, on va perdre tous les bénéfices. Donc, il faut vraiment y aller progressivement pour pas se décourager.
Ouais, pour pas se décourager, sachant qu'on a quand même tous tendance à progresser par palier et pas de façon linéaire. Donc ça aussi, c'est pas simple, non, pour vos disciplines respectives, art martial, le volley, discipline sport co.
Oui, c'est pas simple. Moi qui suis entraîneur, par exemple, de changer un geste technique à un joueur ou une joueuse qui a 25 ans, déjà, il faut qu'elle accepte. Et en fait, il faut qu'elle accepte surtout d'avoir une période où elle va plus réussir ce qu'elle savait faire pour pouvoir progresser après. Et c'est toujours compliqué à faire comprendre que il faut passer par une régression pour pouvoir progresser, parce que les gens se disent bah, moi, je sais bien jouer comme ça, pourquoi j'irai plus loin? Et ça, c'est une grosse difficulté. C'est beaucoup plus facile avec les petits, forcément, qui n'ont pas de passé et de technique.
Ouais. Ça aussi, vous l'annoncez d'emblée que parfois, on va régresser à un moment donné, Benjamin Luron?
Oui, effectivement, il faut faire preuve de beaucoup de résilience sur ce sujet, puisqu'on peut avoir... outre le fait de s'améliorer techniquement, avoir une blessure, avoir un arrêt de la pratique, et on va devoir se remettre dedans et donc réapprendre à faire certaines choses, à reprendre du rythme et donc être prêt à redescendre pour remonter plus
loin. Ouais. Alexia Cornu, il nous reste vraiment quelques secondes, mais on a beaucoup entendu les préparateurs mentaux qui entraînent les champions durant ces Jeux. On fustige beaucoup la France dans sa vision très académique aussi d'enseigner le sport. Vous avez vécu 8 ans en Californie. En quelques mots, vous avez une expérience, vous avez voulu, en rentrant en France, vous mettre à la danse classique, sachant que vous êtes extrêmement athlétique déjà, et vous l'avez très mal vécu avec la mentalité française.
Il y a une grosse différence en termes de l'inclusion, en fait, sur la diversité du sport. Aux États-Unis, on va être beaucoup plus sur le multisport. C'est-à-dire que moi, j'entraînais des équipes d'athlétisme, tout l'hiver, ils faisaient du volley. Et donc, ils arrivaient avec une condition physique de volley, zéro technicité. Et du coup, pendant l'été, on travaillait la technicité, mais il y avait vraiment ce côté, on passe d'un sport à l'autre sans aucun problème, et c'est pas grave si on n'a pas les codes. C'est vrai que mon expérience de tentation de la danse, c'était pas folichon, parce que même si j'ai une très bonne condition physique, en fait j'avais zéro code et je m'étais retrouvée dans un groupe sport loisir qui n'était pas trop loisir, et donc ça n'avait pas été la meilleure expérience, mais ça m'a pas découragée de continuer le sport.
On vous a jeté carrément.
C'est pas...
Sans tenir compte de vos facilités et à progresser très vite. Vous auriez dû progresser très vite.
J'ai pas trouvé trop de plaisir dans ces conditions-là, effectivement.
Merci en tout cas à vous tous. Alexia Cornu, on vous retrouve sur Instagram avec des vidéos d'entraînement sportif très bien faites, en particulier pour les femmes, mais pas seulement. Merci à vous, Benjamin Luron, conseiller technique national en charge du développement du Hapkido et de la formation des entraîneurs au sein de la Fédération française de Taekwondo. Et merci à vous, Arnaud Prigent, Fédération française de volley entraîneur au club de Pantin. On vous souhaite une très très belle journée. ici au Club France. Merci à vous tous.
Merci.
Merci. Merci.
Dans quelques instants, les JO des auditeurs, mais tout de suite, la bien nommée Era Star du Nigeria chez 8 milliards de voisins.
Which kind of life where I never see? I carry God so I fear nothing. Steady increase in the commas. Comma, comma, comma. Original no be parody. You know it's clear for your memory. Whether now winter or summer. I did Papa just travel now. Living life. See my fire burning bright. Within the inside me. Smally way day my feet. They never know I color. Do the move. Everything inside my mind daily, trust me, you can't fool me. And then you don't got logo, who are friendly and conscious. I'm allergic to circles, so I'm not ready for confusion. They're telling me make I show love, stability on bonus. Everything a connection, I'm not ready for confusion. Things happen inside life, try that to make I live my.
Nous sommes en direct sur RFI du Club France. C'est la dernière émission pour ces JO de Paris 2024 et la dernière chronique de Delphine Cachin. Bonjour Delphine.
Bonjour Emmanuel.
Vous accueillez les auditeurs tous les jours dans l'émission et pour cette semaine spéciale, le dernier jour, comme toujours, ils vous ont envoyé leurs meilleurs souvenirs.
Effectivement, finale du 400 mètres haies des JO de Séoul en 88 à Dakar. Eva, 8 ans, est en famille devant la télé. Son compatriote Amadou Diaba est dans les starting blocks. Une première dans l'histoire des JO, un athlète sénégalais monte sur le podium.
Bonjour Emmanuel, bonjour Delphine et à toute l'équipe de 8 milliards de voisins. Bonjour aux auditeurs du monde. Bon, les souvenirs qui m'ont marqué durant les Olympiques de Séoul 1988, alors que j'étais petite fille, c'est quand l'athlète sénégalais Amadou Diaba, qui concourait le 400 mètres haies, remporta la médaille d'argent. Pour nous, c'était fabuleux de voir un Africain, notamment un Sénégalais, d'obtenir cette distinction. Nous étions tous dans l'euphorie.
Je suis parti très très vite et j'ai suivi André Philippe. Bon, sur la dixième, mais quand j'ai vu que Moses ne m'a pas attrapé, c'est là que j'ai piqué en sprint parce que tout le monde avait calculé d'abord Pierre Louis. Bon, que je félicite auparavant pour ce qu'il a fait en athlétisme et aux 400 médailles. Et bon, cette médaille, bon, c'est une médaille que j'offre bon, à toute la nation sénégalaise et je suis très content, je trouve pas de mots à dire aujourd'hui. Bon, c'est une consécration pour moi et ma nation.
Je me rappelle ma maman qui était son fan, alors qu'elle ne savait même pas si son parent et mes frères supportaient Diaba, car pour eux, c'était la fierté nationale. Nous étions dans l'immense gaieté ce jour-là. Ce qui m'a fait plaisir également, c'est de voir le dernier jour de la compétition où tous les athlètes sont conviés à rentrer sur la pelouse. Parce que c'est des moments forts, des moments magiques. C'est là qu'on verra la diversité des couleurs, d'ethnie, d'âge dans les stades. C'est vraiment fort. Voilà, c'était Eva, depuis Dakar, coach football, petite catégorie. Merci RFI, merci 8 milliards de voisins.
Et aux Jeux de Séoul en 1988, l'Afrique a récolté 14 médailles, 11 en athlétisme et 3 en boxe. Merci Eva pour ce message.
Malheureusement, Eva renonce à une carrière d'athlète. Pourtant sélectionnée par des recruteurs d'athlétisme, elle est première, y compris devant les garçons, à un test de course. Mais elle abandonne au bout de quelques séances. Elle doit étudier et sa maman a besoin d'elle. Aujourd'hui, ceinture noire de karaté, encore un peu amère, Eva est toujours très sportive.
C'était les JO des auditeurs toute cette semaine avec Delphine Cachin. À suivre le futur du sport avec Tom Malky.
8 milliards de voisins et de voisines.
Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin.
Un dernier saut dans le futur du sport avec vous Tom Malky. Après avoir parlé de toutes les technologies qui vont révolutionner les sports de demain, on se demande forcément, est-ce qu'un sport pourra détrôner le foot et dominer le monde ? Quelques réponses tout de suite au micro de Marius Viau.
Moi je pense que ce sont les sports urbains. Bah, je pense que c'est aussi les sports de la jeunesse et donc c'est le renouveau.
Peut-être les sports sur de glisse avec les new wave, etc. Où effectivement on pourrait avoir avec les nouvelles technologies des planches différentes qui pourraient nous emmener sur l'eau autre chose que le wings ou autre. Quoi.
Des planches comme des overboards qui savent voler un petit peu, c'est ça ?
Oui, voilà, tout à fait. Actuellement, c'est un petit peu ce qui est testé actuellement et c'est plutôt sympa.
Bon, l'overboard, qui, je le précise, n'a toujours pas dépassé le stade du prototype.
Oui, c'est la planche sans roulette qui vole au-dessus du sol avec des systèmes d'aimants dont vous nous avez parlé cette semaine.
Exactement, c'est celle qu'on peut voir dans le film Retour vers le futur. Mais tout le monde n'a pas des réponses aussi futuristes.
Je ne suis pas sûr que les nouvelles technologies vont vraiment révolutionner le sport. Moi, je pense et j'espère plutôt que ça va rester, je sais pas, des sports classiques, je sais pas, mécaniques. Je ne suis pas sûr que ça va beaucoup changer les équilibres, qu'il y a forcément des nouveaux sports qui vont apparaître comme ça.
Bah, je pense que de toute façon, ce sera un sport collectif parce que les gens ont besoin de s'attacher à des personnalités. Et bah, plus il y en a, plus il y a de gens qui se sentent représentés par les personnalités qui suivent dans le sport. Je ne suis pas sûr que le foot va avoir un remplacement en Occident. Donc pour moi, ce sera toujours le foot.
Ouais. Vous l'entendez, Emmanuel, hein, la nouvelle génération est peut-être moins rêveuse que l'ancienne.
En même temps, est-ce qu'il existe vraiment d'autres alternatives que le foot ?
Le foot, c'est le sport le plus pratiqué dans le monde avec plus de 3,5 milliards de fans. Et 6 des championnats nationaux les plus lucratifs de la planète sont dédiés eh bien, au football. Alors forcément, accueillir la Coupe du Monde de foot, c'est un coup de projecteur assuré sur la scène internationale. Les pays du Golfe, comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, l'ont bien compris. L'Arabie Saoudite qui a aussi mis le grappin sur 2 autres compétitions internationales. Les Jeux Asiatiques d'hiver en 2029 et les Jeux Olympiques d'e-sport dès 2025.
Ouais, le e-sport qui n'est peut-être pas un choix au hasard de la part de l'Arabie Saoudite.
Non, pas du tout. Le marché du jeu vidéo, c'est plus de 3 milliards de joueurs et près de 190 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2023. En bref, ça pèse presque autant que le football. Et n'en déplaise à celles et ceux qui considèrent que ce n'est pas un sport, les compétitions sportives de jeux vidéo gagnent du terrain. Elles pourraient même, dans l'avenir, devenir le sport qui dominera le monde.
Ouais, et avec ces deux géants, quelle place pour de nouveaux sports ?
Alors, dernièrement, le skateboard et l'escalade sont devenus des sports suffisamment populaires pour faire partie du programme officiel des Jeux Olympiques. Le MMA aussi, les arts martiaux mixtes en français, ont connu une popularité galopante. Ce sport, dont le premier événement sportif date seulement de 1993, il réunit aujourd'hui plus de 300 millions de fans dans le monde. Et ça, c'est notamment dû aux nouvelles technologies de diffusion qui lui ont permis de toucher un large public.
Oui, nouvelles technologies de diffusion, c'est-à-dire les plateformes de streaming qui sont très populaires chez les jeunes.
Oui, celle-ci, c'est celle comme YouTube, Twitch. C'est tout l'enjeu pour le sport qui dominera le futur, trouver son public. Peut-être faut-il d'ailleurs commencer par regarder du côté du continent africain, majoritairement jeune, qui représentera 40% de la population mondiale d'ici la fin du siècle. Et ça n'a pas échappé à la Chine de Xi Jinping qui a financé la construction de 52 stades à travers toute l'Afrique.
Ouais. Ben voilà, c'est ce qu'il vous reste à faire hein, pour l'Apkido, vous mettre sur Twitch et sur des plateformes de streaming, non ?
effectivement.
Ben oui, parce que c'est vrai, il faut penser aux déclinaisons. Les stades, ceci dit, sur le continent africain ont quand même du mal à se remplir.
Oui, mais en observant l'investissement massif de certains pays pour développer et posséder ces infrastructures sportives, on comprend surtout que, peu importe la discipline, le sport restera dans le futur un levier pour dominer le monde.
Ouais, on n'en doute pas. Merci Tom, le futur du sport. Cette chronique est née d'une idée de Juliette Brault et de vous, Tom Malky. Merci d'avoir scruté, d'avoir imaginé les transformations du sport dans les années à venir avec la technologie, mais aussi, on l'a entendu hein, au cours des chroniques, les mentalités, les modes de vie. À suivre Mon Premier Stade, le sport expliqué aux enfants, la parenthèse enchantée des JO se referme ce week-end et on termine en beauté avec les finales de basket, mais pas seulement. Avant de vous caler tranquillement devant votre télé, vous allez écouter la question de Joseph. Le basket, sport de géant, vraiment, Juliette Brault vous attend sur le parquet.
RFI.
Mon premier stade. Mon premier stade. Le sport expliqué aux enfants.
Prénom Joseph. Âge 12 ans, je fais du parcours à onde de choc. Ma spécialité, c'est les saltos avant et arrière. Est-ce qu'il faut être grand pour faire du basket?
Bienvenue dans mon premier stade, Joseph. Voilà une question à la hauteur d'un sport qui compte plus de 450 millions d'adeptes dans le monde, selon la Fédération internationale de basket. Difficile de savoir combien tout ce beau monde mesure. Alors, je te propose de commencer par regarder du côté de la NBA, la National Basketball Association, qui réunit les meilleurs joueurs de la planète. Et il y a de quoi avoir le vertige. Impossible de passer inaperçu quand on a du talent et qu'on mesure 2m18 comme Kareem Abdul-Jabbar. 2m29 comme Yao Ming, voire 2m31 comme Manute Ball. Il reste encore à ce jour le plus grand joueur à avoir foulé les parquets de la NBA avec Gheorghe Mureșan. Ça, c'est pour les records. Mais les autres joueurs ont aussi tendance à être grands, voire très grands. Car la taille moyenne d'un basketteur de NBA s'établit à 1m99.
Caitlin Clark, one of the rare times this season.
Épargnons-nous tout de suite le moindre doute. En WNBA, l'équivalent féminin du championnat américain, on voit aussi les choses en grand. Une joueuse moyenne mesure environ 1m83. Pour certains postes, c'est presque indispensable d'être grand. Dans une équipe de basket, on compte 5 joueurs ou joueuses, parmi lesquels l'ailier fort et le pivot. Ce sont eux qui jouent dans la raquette, c'est-à-dire tout près du panier. Ils y sont pour empêcher les tirs de leur adversaire et tenter de prendre la balle au rebond. Et puis, avec un panier fixé à 3,5 m de hauteur, c'est un peu plus facile quand on est soi-même élancé pour marquer. À ce stade, Joseph, j'imagine que tu penses que cet épisode touche à sa fin. Eh bien non, je n'ai pas dit mon dernier mot. Ou plutôt, le basket n'a pas dit son dernier mot. La taille ne fait pas tout et peut même présenter quelques désavantages. Les très grands joueurs ont en effet tendance à être moins rapides. Certains pourraient dire pato. Leurs grandes mains peuvent aussi leur faire commettre quelques maladresses. Ils manquent de technique pour maîtriser la balle et c'est un problème notamment pour les tirs de loin à 3 points qui demandent de la précision. A l'inverse, les joueurs plus petits ont un centre de gravité plus bas. Ça leur permet d'être plus solides sur leurs appuis et de changer plus rapidement la direction du jeu. Leur petite taille leur permet aussi de se faufiler parmi les grands. Parfait pour déstabiliser la défense adverse. Ce qui compte aussi au basket, c'est l'organisation du jeu. Et celui qui s'en charge dans l'équipe, c'est le meneur. Pour ça, pas besoin d'être forcément grand. Ce qu'il faut surtout, c'est avoir ce qu'on appelle dans le milieu un bon QI basket. Autrement dit, une intelligence de jeu. Ça veut dire lire le jeu adverse, faire la bonne passe à ses coéquipiers. En gros, c'est lui qui commande les attaques sur le terrain. Alors, il y a bien un joueur qui a tout, Joseph. La rapidité, la lecture de jeu, une grande taille, et qui est capable d'être bon à tous les postes. Un certain Victor Wembanyama.
Oh, les grands bras de Victor, regardez.
Là, il va aller finir tout droit dans le cercle.
Du haut de ses 2,25 m, 2,22 m sans les chaussures, le joueur français, arrivé il y a à peine un an dans l'équipe des San Antonio Spurs, affole déjà toutes les statistiques. Même ses grandes mains ne l'ont pas empêché de marquer 128 paniers à 3 points la saison dernière. Il y a bien des petits joueurs à l'immense carrière. À ce jour, l'Américain Muggsy Bogues reste le plus petit joueur de NBA avec ses 1m60.
It's a 5-point game, folks. Muggsy Bogues scoring.
Les 65 cm qui le séparent de Victor Wembanyama ne l'ont pas empêché de passer 14 saisons en NBA et de devenir champion du monde avec les États-Unis en 1986.
The shortest player, and is he really 5'7?
La même année, Anthony Webb, dit Spud Webb, et ses 1m68, remporte le concours de dunk du All-Star Weekend qui réunissait les meilleurs joueurs de NBA.
Spud Webb from Atlanta.
Donc non, Joseph, pas besoin d'être grand au basket. Voilà une bonne raison de faire l'impasse sur la soupe.
Mon premier stade.
On est dans la même équipe.
On est dans la même équipe.
Mon premier stade à télécharger, bien sûr, en podcast. À partir de lundi, 8 milliards de voisins, nous vous proposons une sélection de nos meilleures émissions. Si vous avez quelques jours de repos, n'attendez pas pour retrouver aussi nos séries, Le Monde des Enfants, bien sûr aussi Mon Premier Stade. L'équipe, c'est Juliette Brault, Delphine Cachin, Tom Malky. Merci aussi à David Brocouet, à la réalisation, à la technique durant ces Jeux. Merci aussi à Boris Vichy, Tiffany Menta, Valentin Blanc, Julien Boisseau. Et merci les voisins et les voisines pour vos messages durant ces Jeux. On se retrouve très bientôt en direct sur RFI avec vos appels, avec vos témoignages sur des sujets qui vous concernent. Et d'ailleurs, pendant ces quelques jours de repos, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. Nous vous lirons dès la rentrée. À très vite, les voisins et les voisines sur RFI, bien sûr.
C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalea Hotels, leader